Eh bien, il est 16h, donc il est 16h, 16h et quelques. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 et nous sommes à Sortir du colonialisme. Une émission aujourd'hui qui va parler de la Palestine. On a souvent évoqué le sujet de la Palestine dans le cadre de cette émission, mais aujourd'hui c'est un peu différent. On va parler d'une campagne de solidarité active. C'est la campagne BDS. Alors, ces trois lettres vous seront expliquées tout au long de l'émission par nos deux invités que je salue. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Voilà. Alors, je vous présente Imen, qui est l'animatrice de la campagne BDS France et qui sera donc accompagnée de Dror, qui est donc chercheur, qui est donc syndiqué à Sud Recherche, je le dis parce que ça mange pas de pain, et qui est aussi un membre très actif de cette campagne et qui va nous parler de tout un tas de choses d'ailleurs tout à l'heure. Donc voilà, alors BDS, qu'est-ce que c'est ?
Alors la campagne BDS, elle a été lancée en 2005 par plus de 171 associations de la société civile palestinienne. Donc boycott, désinvestissement, sanctions. Donc c'est une campagne qui s'inspire de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et qui est destinée donc à de larges boycotts, désinvestissements, sanctions. Donc boycott des produits israéliens, des investissements des entreprises notamment qui participent à l'occupation de la Palestine ou qui sont implantés en Palestine, dans les territoires palestiniens occupés, et sanctions. Donc là, il s'agit de demander l'application des sanctions contre le régime d'apartheid israélien. Donc c'est une campagne internationale qui existe en France. Donc nous, à la campagne BDS France, elle a été créée en 2009, mais c'est une campagne internationale qui a été lancée donc par les Palestiniens eux-mêmes qui appellent les sociétés civiles du monde entier à soutenir cette campagne et à la relayer.
C'est très important ce que tu dis parce qu'effectivement, donc, c'est une grande campagne de solidarité internationale qui est née de la société civile palestinienne elle-même. Et donc, tu parlais d'occupation, d'apartheid, donc c'est-à-dire qu'elle intervient dans un contexte très particulier, donc la politique israélienne à l'égard de ce qu'on appelle les territoires. Et donc, une politique d'apartheid.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a ça fait maintenant de très très longues années d'apartheid, de colonisation, d'occupation. Il y a une impunité totale concernant Israël. C'est aussi pour ça que la campagne elle a été lancée. C'est-à-dire aucune des résolutions, notamment des Nations Unies, ne sont appliquées. Sur le terrain, il y a une occupation, une colonisation qui ont été maintes et maintes fois dénoncées. Mais il y a un système d'impunité totale et c'est précisément pour ça que la campagne BDS elle a été lancée. Donc l'apartheid, évidemment, il y a toute une série d'apartheid quotidiens en Palestine occupée et c'est aussi contre ça qu'on se mobilise.
Et quand tu dis apartheid, effectivement, c'est la référence historique que tout le monde a à l'Afrique du Sud avec les développements de la lutte anti-apartheid qu'on connaît et qui ont été plutôt positifs. Donc cette campagne a donc des chances d'avoir une réelle efficacité politique.
Oui, d'ailleurs, elle avance énormément. Elle s'inspire clairement de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Elle est efficace parce que, pas autant efficace qu'on le voudrait, mais elle est efficace dans le sens où elle avance, on arrive à faire avancer les choses. Effectivement, on s'inspire de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud.
Et ce qui était important, c'est que tu disais que, Israël n'est jamais condamné. Ou peut-être des condamnations, mais qui restent de pure forme par les instances internationales et donc continuent dans cette impunité. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'il y ait une telle impunité ? Est-ce que c'est le poids de l'histoire qui fait que l'Europe, comme on l'a expliqué d'ailleurs ici avec Pierre Stamboul, qui est venu parler de son bouquin il y a quelques mois, est-ce qu'il y a un truc avec le fait que l'Europe soit débarrassée du problème juif et les poser sur les Palestiniens ? C'est-à-dire que ce soit déculpabiliser en disant ça y est, nous on n'est plus responsable.
Je crois que c'est plus compliqué. Enfin, je crois que ça va plus loin que ça. Ça, c'était peut-être le point de départ, mais je crois que ça arrange bien l'Europe ou l'Occident en général d'avoir une tête de pont au Moyen-Orient qui défende, avec beaucoup de guillemets, nos valeurs de capitalisme. Surtout capitaliste, finalement. C'est-à-dire que c'est un interlocuteur qui permet ensuite d'être notre représentant là-bas. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une image de colonialisme. En fait, c'est nous qui sommes là-bas. Ça s'appelle Israël, ça s'appelle les Juifs, mais c'est l'Occident qui est là-bas et qui exploite les ressources sur place.
Oui, l'image de tête de pont, elle est très parlante. Et effectivement, c'est comme tu dis, c'est la base avancée de l'Occident sur place. Ça. Oui, c'est important de le dire. Donc cette campagne BDS, elle a vraiment un rôle à la fois politique et éthique aussi, parce que c'est juste pas moral ce qui se passe sur place. Donc on a expliqué un peu brièvement, mais voilà, ce qu'étaient les trois lettres. Donc BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Comment ça se passe concrètement et plutôt ici. Est-ce qu'on peut dire que ce mouvement est bien perçu en France? Est-ce qu'il est criminalisé? Comment est-ce que...
Bah, c'est une campagne qui, au départ, était pas forcément. Donc, on a commencé la campagne après, notamment le massacre de Gaza. Ça a été qui a eu en 2009 l'opération appelée Plomb durci, qui s'est soldée par 1400 morts, dont de très nombreux enfants, etc.
Plomb durci, juste une petite parenthèse, au cours de laquelle des armes chimiques auraient été employées.
Exactement, du phosphore blanc. Donc,
voilà. Non, parce qu'on a l'air à fond, genre oh, c'est pas bien les armes chimiques,
oui,
mais
tout à fait.
J'ai pas trop entendu à l'époque.
Par contre,
quoi.
On parle pas d'intervention quand il s'agit des crimes israéliens, effectivement.
Oui, c'est une petite parenthèse, mais qui valait d'être ouverte.
Merci.
Moi, je t'en prie.
Et donc oui, alors l'accueil, l'opinion publique est très au fait. Enfin, on a encore un travail d'information à faire, mais on peut dire que la campagne BDS avance en France, notamment et partout dans le monde. Mais donc, on est criminalisé évidemment par. Pas seulement par des officines pro-israéliennes, mais aussi elles sont aidées par le gouvernement français. Donc il y a eu une circulaire de Michèle Alliot-Marie quand elle était ministre de la Justice, invitant les parquets à systématiquement poursuivre les militants de la campagne BDS. Et donc en plus c'est éminemment politique, parce qu'elle s'est pas contentée de faire une circulaire sur le boycott en général, mais elle précise bien qu'il s'agit du boycott d'Israël. Donc on se retrouve avec des procès
Quels sont les chefs d'accusation pendant ces procès?
Alors discrimination à l'égard d'une origine, d'une ethnie ou d'une nation. Il y a aussi des procès où on est poursuivi pour entrave à l'activité économique d'une activité économique. Voilà, c'est les chefs d'accusation. Donc il y a toute une série de procès de militants poursuivis pour leur participation citoyenne et non violente.
Oui,
à
il faut
cette
le
campagne.
Rappeler, ça, c'est une campagne citoyenne,
voilà.
Et non violente.
C'est-à-dire c'est des militants qui font des actions non violentes dans des supermarchés pour rappeler justement l'illégalité des produits et rappeler que ces produits, ce sont des produits de l'apartheid, donc des produits israéliens, et qui se retrouvent condamnés parce qu'ils ont. Ils ont distribué des tracts, tout simplement.
Poursuivis, ils ne se retrouvent pas condamnés, ils sont juste poursuivis.
Tout à fait,
en général,
ouais.
Ils sont même relaxés,
oui.
Mais à cause de la circulaire Alliot-Marie, le parquet fait appel. Et donc, ils sont de nouveau poursuivis, alors que jamais personne n'a été condamné pour discrimination à la haine, ni contre une race, religion, nationalité, quoi que ce soit.
De toute façon, l'impérialisme, ce n'est pas une race, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une nationalité.
Si on pouvait le discriminer...
Ça serait plutôt sympathique, oui. On va revenir plus précisément sur les différentes formes que peut prendre cette solidarité, donc par le biais du boycott, qu'il soit économique, culturel, voilà, on développera ça plus tard. Mais j'ai bien envie de faire une première pause musicale avec un morceau qui s'appelle Palestine, parce qu'on s'est dit on parle de Palestine, pourquoi pas, et c'est les Brixton Cats.
We'll be right back.
De retour sur Radio Libertaire 89.4, sortir du colonialisme. Je rappelle le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous appeler pour nous dire que ce qu'on fait, c'est super bien. C'est le 01 43 71 89 40. 01 43 71 89 40. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler pour nous faire part de vos remarques. On était en train de parler avec Imen Edror de la campagne BDS, boycott des investissements sanctions, qui est donc le boycott des produits, mais pas que. Des institutions aussi, de tout ce qui a trait en fait à Israël, et donc avec cette comparaison avec l'Afrique du Sud qu'on a fait, donc il prend plusieurs formes ce boycott, donc on peut parler d'un boycott économique par exemple dans un premier temps, avant de parler d'un boycott culturel qui lui, c'est un concept qui pose un peu plus problème, le boycott culturel, et enfin je sais que c'est moins, voilà, c'est moins.
Ça pose des problèmes à certains, mais si on comprend le boycott comme étant loin d'être une arme pour vraiment, c'est une arme symbolique, quoi. C'est une arme pour s'attaquer à la réputation d'Israël, c'est une arme pour critiquer leur comportement, le comportement du gouvernement. Donc dans ce cas-là, bien sûr que la culture est au premier plan des moyens qu'on a de s'attaquer à la réputation d'Israël. Et Israël le sait bien puisque eux font le contraire, c'est-à-dire que eux mettent un argent fou. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, pour utiliser la culture qui vient d'Israël, qui n'est même pas toujours de la culture israélienne, mais enfin de la culture d'Israël, pour faire de la propagande, pour montrer comment c'est un beau pays, qui ne fait pas que la guerre et d'envoyer des bombes au phosphore blanc sur Gaza, mais qui fait aussi des jolies chansons.
Ça me fait penser, alors on en parlait tout à l'heure en off avec Imen, c'est un peu le même principe qui fait qu'il y a une gay pride à Tel Aviv, enfin le pinkwashing, dans cette démarche-là. Et la campagne BDS, donc, elle cherche à montrer que toutes les institutions, elles sont des outils de l'oppression israélienne.
Bien sûr, et c'est pour ça aussi que parfois, pour lever les réticences contre le boycott culturel, on précise qu'on ne s'attaque pas aux artistes. Bon, il y a des gens, ils n'ont pas de chance, ils sont en Israël, ils sont artistes.
Tant pis, mon gars.
Tant mieux pour eux, je ne sais pas. Ouais. Ils auraient pu naître de l'autre côté du mur. Mais on s'attaque à justement ces manifestations évidentes de l'État israélien d'utiliser la culture comme moyen de propagande. Donc c'est très facile à voir. Il suffit de voir si sur un événement culturel, il y a le petit logo du ministère de la Culture ou du ministère des Affaires étrangères israélien. Dans ce cas-là, c'est évident que le gars, il a touché de l'argent, son voyage a été subventionné. Et dans ce cas-là, on ne peut plus dire que c'est juste un concert, un événement artistique.
C'est un propagandiste.
Plus ou moins complice. Parfois, on peut lui accorder le bénéfice d'être naïf, mais peu importe. Là, c'est une cible de la campagne. On refuse que l'État d'Israël fasse sa pub dans nos salles de concert ou plus. Peut-être plus souvent dans les festivals de cinéma. Là aussi, c'est pas contre ni contre les films ni contre les réalisateurs, mais c'est contre le festival du cinéma israélien qui va montrer tous les bons, qui en plus va s'enorgueillir du fait que c'est des films qui parlent de la paix, qui sont ouverts.
Oui, il y a des films dits de gauche.
Où il y aura même des Palestiniens gentils parmi les acteurs, etc. Mais au-delà de ça, voilà, ça vise un programme qu'on comprend bien. Alors pareil pour les expositions avec des artistes israéliens. Donc d'ailleurs, là oui, on s'y attaque sans problème.
Mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, l'objection qu'on entend, c'est mais ce sont des artistes, donc ils sont apolitiques, c'est en dehors de ça. Et c'est bien de montrer que finalement, non, dans ce cas précis, le simple fait de venir mandaté par le gouvernement, c'est faire de la politique, c'est cautionner la colonisation.
Alors je rappelle que le boycott de l'Afrique du Sud, on boycottait aussi les artistes.
Ah.
Nous, on fait ce que nous demandent les Palestiniens. Le jour où les Palestiniens nous diront vous boycottez aussi les artistes, on le fera. Parce que cet argument de dire mais nous ce qu'on fait c'est apolitique, c'est à moitié recevable. Quel luxe pour un Israélien de pouvoir faire d'être apolitique. Bien sûr il est apolitique, il est du bon côté du fusil. Les Palestiniens, j'en connais très peu qui font quelque chose d'apolitique, ils ne peuvent pas matin, midi et soir, ils sont dans une situation où ils vivent politique, ils respirent politique, ils font de l'art politique, ils subissent la politique.
Et donc là, l'un comme l'autre, vous inscrivez en faux, j'aime pas une expression à la con comme ça, mais voilà, vous inscrivez en faux.
Ça fait bien.
Ouais, t'as raison. Contre l'idée reçue et qui est bien bien répandue ici, à savoir les universités américaines. Oh, le lapsus. Les universités israéliennes, elles sont à la pointe du combat anticolonialiste, elles sont progressistes, donc c'est pas vrai.
Parce
qu'on l'entend dire,
c'est
ça.
C'est un mythe de dire on va s'attaquer contre les universitaires, mais c'est ceux qui sont le plus à gauche. C'est pas vrai. Il y a eu des sondages justement au moment de plomb durci à Gaza. 80% des enseignants étaient en faveur de l'attaque sur Gaza.
Ils ne condamnent pas la colonisation.
Ils ne condamnent rien du tout. Alors c'est vrai que parmi les rares Israéliens, mais c'est quelques pourcents d'Israéliens de gauche souvent, ceux-là sont des intellectuels qu'on peut retrouver à la fac, mais ceux-là sont avec nous, ceux-là disent boycottez-nous. Il y a un groupe qui s'appelle Boycott From Within en Israël, qui appelle la communauté internationale à boycotter encore une fois, pas les Israéliens, mais boycotter l'État d'Israël, à faire pression sur leur État pour que cet État se comporte au minimum un peu mieux. Je veux dire, moi, on peut tout à fait imaginer, nous, en tant que Français, qu'on est très content qu'un pays boycotte l'État français pour toutes les saloperies que fait la France. Et on a beau être Français, ça ne nous empêche pas d'être pour...
On est d'abord internationaliste. Ah,
exactement.
Enfin, voilà. À propos de boycott universitaire, il y a aussi, une sorte de répression sourde contre le mouvement BDS, puisque je me souviens qu'il y a 2 ans, il y avait eu une université française, Paris 8 pour ne pas la citer, qui avait organisé, dans le cadre de la semaine contre l'apartheid, qui avait proposé des événements en lien avec la Palestine. Et cette semaine a été purement et simplement boycottée par l'université. Donc le boycott, il s'est retourné en fait contre les membres de la campagne. Je ne sais pas si je suis très claire, si vous pouviez me sortir de ce mauvais pas.
S'il te plaît. À vrai dire, alors, plus généralement, ça fait 7 ans, 7 ou 8 ans maintenant qu'il y a un événement international qui est né au Canada qui s'appelle la Semaine contre l'apartheid israélien, qui a lieu tous les ans pendant 1 ou 2 semaines, en fait, fin février, début mars. Toutes les universités du monde, qui veulent, rejoignent ce mouvement en organisant des actions symboliques à la fac pour parler d'apartheid israélien, pour parler, en fait, dans des termes un peu académiques, de ce que c'est que l'occupation, la colonisation. Qu'est-ce que c'est que la stratégie du boycott? Est-ce que c'est la meilleure stratégie? Est-ce que c'est pas la meilleure stratégie? Donc ça a commencé au Canada. Beaucoup d'universités canadiennes le font chaque année. Aux États-Unis, en Angleterre, en France, comme le reste de la campagne BDS, on a voulu commencer en 2009. Et je dois dire que malheureusement, depuis donc 3-4 ans qu'on essaye de faire ça, on n'a quasiment jamais réussi. Alors on a réussi à quelques rares occasions. On n'a quasiment jamais réussi à mener à terme un événement qu'on avait organisé. À chaque fois, on est censuré par la fac qui nous interdit.
Mais qui, donc, accorde et qui après le refuse, parce que là c'est un peu ce qui s'était passé.
C'est ça, qui accorde parce que c'est normal qu'il l'accorde, il y a un débat académique sur un sujet intéressant. Mmh. Et puis qu'après subit des pressions et du coup s'aperçoit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai
de
autorisé.
De qui les pressions, on le sait?
Non, parfois on le sait, parfois c'est le CRIF qui s'en vante.
Carrément.
Oui, comme à Paris 8, c'est le CRIF.
Ça peut être le CRIF via un ministre, parce qu'à l'ENS, il y avait eu aussi la fois où Stéphane Hessel avait dû. Était prévu, c'était la semaine de l'apartheid israélien, Stéphane Hessel devait parler à l'ENS et l'événement avait été organisé, et la ministre de l'éducation de l'époque, c'était Pécresse, je ne sais plus.
Oh, il y a des Pécresse, il me semble.
Enfin, une sarkozyste parmi d'autres, qui s'était vantée à la télé d'avoir reçu un coup de fil du CRIF et d'avoir appelé...
Peut rappeler, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce qu'est le CRIF, donc.
C'est le Conseil représentatif des institutions juives de France, c'est donc l'organe qui s'autoproclame représentatif.
Oui, il faut
quand
même préciser qu'il ne représente que lui-même.
Et qui est ultra-sioniste, revendiqué. Oui. Sa principale préoccupation, c'est de défendre la politique
d'Israël. Et qui a une certaine influence sur les décisions, apparemment.
Oui. Il y a un dîner de CRIF chaque année.
Auquel se presse la classe politique française. Ça doit être super bon.
C'est peut-être pour ça, mais alors ils doivent aussi les droguer, parce qu'après, ils ressortent, ils sont complètement...
Petite publicité pour sortir du colonialisme et la prochaine semaine anticoloniale qui aura lieu du 14 février, c'est la Saint-Valentin, au 3 mars, je ne sais pas la 5 quoi c'est. Et on va essayer d'organiser...
Saint-Bakounine, je crois.
Ou Saint-Kropotkine, je ne sais pas. Et on va essayer d'organiser un contre-dîner du CRIF pendant cette semaine. Alors ça s'appellera peut-être pas comme ça, mais ça s'appellera peut-être comme ça. Et voilà. Donc juste, peut-être qu'on fera ça au kebab, moi je sais pas.
Une bonne idée.
Mais donc juste pour revenir sur la censure, c'est quand même assez grave qu'on puisse pas tenir une conférence dans une université en France. C'est en général organisé par les étudiants, parfois avec quelques profs.
Des profs, oui.
Sur le sujet qu'on veut, dans la mesure où, je dirais à la rigueur, s'ils prétendent qu'il risque d'y avoir des propos contre la loi, qui laissent le débat se tenir et qui portent plainte. Mais bien entendu qu'il n'y aura jamais un propos ni illégal, ni antisémite, ni quoi que ce soit.
Et les arguments, quelquefois, c'était juste l'utilisation dans le terme du débat, dans le titre du débat, du mot apartheid. Donc c'est ça qui dérange. C'est-à-dire on ne peut pas parler d'apartheid.
Apartheid et boycott, c'est les deux mots un peu tabous.
Des mots tabous à l'université. Donc on peut parler de tout. Mais pas d'apartheid.
Pas imputer ce vocabulaire à la situation. Voilà.
Ce qui est d'ailleurs un de nos combats, c'est d'imposer ce mot d'apartheid.
Exactement.
Quitte à le discuter, quitte à dire qu'il est imparfait, quitte à dire que c'est pas exactement l'apartheid de l'Afrique du Sud, mais c'est l'apartheid dans sa définition qui est un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur un autre groupe racial.
Ça me paraît juste.
Dans l'intention de maintenir ce régime. Ce qui paraît juste se coller à la... Et cela dit, là où là où on voit le succès aussi de notre campagne, c'est que ce mot d'apartheid, il est utilisé de plus en plus. Alors, on n'a toujours pas le droit de l'utiliser à la fac, enfin, en tout cas, dans des débats, mais il est dans les journaux maintenant. Alors, toujours entre guillemets, ou en disant qu'on n'est pas sûr qu'on puisse tout à fait utiliser ce terme.
Et oui,
nous, on est ouvert au débat.
Voilà,
peut-être qu'effectivement, ce n'est pas le meilleur terme.
En tout cas, il est très parlant et il fait référence à une situation historique qu'on connaît.
Oui.
Et voilà, Nelson Mandela, maintenant, c'est quand même.
Oui.
Voilà, c'est devenu une icône du monde politique. Donc, c'est clair qu'il est un militant de la cause anti-apartheid. Donc, voilà.
Tout à fait.
Donc c'est important de le dire. Est-ce qu'on parle tout de suite du boycott culturel, oui, avant de refaire une pause, parce qu'on a on va arrêter avec les pauses. Le boycott culturel, ça vise plus les artistes qui doivent se produire en Israël et à qui on essaie de dire que leur présence risque de cautionner le système. Donc est-ce que vous avez des exemples récents à nous donner sur
Je vais dire quand même qu'il y a peut-être au moins trois façons de le voir, le boycott culturel. Il y a effectivement un boycott un peu négatif qui est celui de dire aux artistes français, par exemple, comme on est en France, chaque pays s'occupe de ses artistes, en gros, ou des artistes dont il se sent proche. Donc de dire à nos artistes, n'y allez pas, parce qu'en y allant, vous cautionnez une politique. Il y a ce dont on a parlé tout à l'heure aussi, qui est en France, ailleurs qu'en Israël, de critiquer les événements qui sont à la gloire de cet État. Donc là aussi, pour ne pas cautionner. Il y a aussi un volet dont on oublie souvent de parler, qui est de promouvoir la culture palestinienne. Parce que la politique de colonisation en Israël, elle vise aussi à nier et à annihiler toute culture palestinienne, à même prétendre que des spécialités palestiniennes sont des spécialités israéliennes, etc. Et donc c'est important, il y a une culture, un art encore vivant en Palestine, et quand il y a des artistes palestiniens qui viennent en France, de les aider.
Comme la troupe du théâtre de Jenin, par exemple.
La troupe du théâtre de Jenin. Il y a eu vous avez peut-être entendu parler d'artistes qui ont été vraiment censurés. Une artiste qui devait avoir une exposition en Suisse et sous pression, encore une fois, d'un groupe. En fait, elle a été sponsorisée par Lacoste et sous pression de groupes sionistes en Israël. Lacoste a retiré son sponsor. Il y avait eu un photographe en France il y a un an ou deux, un Allemand, Kai, j'ai oublié son nom de famille, qui faisait une expo de photos au musée d'art moderne. Et la LDJ, les fachos français de la LDJ sont venus et ont cassé.
Ouais, voilà.
Ils ont fracassé un des tableaux. Du coup, ils ont été obligés de fermer l'exposition. L'expo a été fermée une semaine sur les trois qu'elle devait avoir lieu.
Il y a aussi l'année dernière une expo d'une photographe palestinienne, disons, c'est à l'Orangerie.
Ah oui, qui s'est finie cet été. Ouais.
Ouais.
Oui, celle-là, il y a
Ahlam
juste.
Chibli. Oui, il y a aussi
juste
des
manifs.
De
LDJ, c'est ça, il y a eu plein de menaces, mais l'exposition a pu se tenir.
Oui.
Très intéressante d'ailleurs. Mais ce même Kai Weindorfer, si je me souviens bien, revient là bientôt dans le cadre de.
C'est ce que tu m'as donné tout à l'heure, voilà. Et donc il revient, mais alors où ça
avec d'autres
espace central du pont,
c'est ça,
74 rue Joseph de Metz, donc exposition du 12 septembre au 2 octobre, donc on y est dans le cadre de la biennale photo K4, Keep Your Eye on the Wall, paysage palestinien.
Donc c'est principalement des photographes palestiniens, dont Taïsir Benji, qui est assez connu, et puis Kai Weindorfer, qui est un Allemand ou un Autrichien, je crois, un Allemand. Voilà.
Et donc le fait d'aller à cette exposition, je rappelle, du 12 septembre au 2 octobre 74 rue Joseph de Maistre dans le 18e à Paris, le fait d'y aller, c'est une façon donc de s'impliquer dans la campagne BDS.
Moi, je trouve que oui.
Ouais.
Je trouve que c'est important de ne pas être que dans le négatif, on est aussi dans le positif.
On propose aussi des choses. Et donc... Pardon, oui.
Non, tu me demandais les victoires récentes ou les actions récentes.
Oui, c'était sur ça que je voulais venir, oui.
Il y a eu, cet été, il y a un groupe américain qui s'appelle The Killers qui a annulé son voyage en Israël. Et puis, suite à ça, il y a eu Roger Waters, l'ancien bassiste, chanteur, compositeur pour les Pink Floyd, qui, ça fait longtemps qu'il est engagé sur la Palestine. Il a fait des concerts là-bas, il est membre du tribunal Russell pour la Palestine. Il est...
Tu peux rappeler ce que c'est le tribunal Russell pour la
Palestine? C'est un tribunal, Bertrand Russell avait fait un tribunal dans les années 70 autour de la guerre du Vietnam pour que les intellectuels remplacent les cours de justice puisque les cours de justice ne faisaient rien et de faire une espèce de procès de la guerre mais un procès argumenté avec tous les avec des vraiment sortir un dossier sérieux sur toutes les raisons pour lesquelles on pouvait qualifier les crimes de peut-être crime contre l'humanité, ou en tout cas crime d'apartheid, etc. Donc plusieurs intellectuels, dont de nouveau il y avait Stéphane Hessel, il y avait Pierre Galland, mais il y a aussi des personnalités en France, il y a Zebda qui en fait partie, par exemple, c'est des comités de parrainage. Et donc Roger Waters en fait partie, et récemment, donc tout le monde lui demandait, mais est-ce que toi, qui as un carnet d'adresse assez important, est-ce que tu peux peut-être appeler tes copains et leur demander de s'associer à toi? Donc il l'a fait ponctuellement, c'est lui qui a appelé Stevie Wonder, par exemple, qui lui devait donner un concert pour l'armée israélienne à Los Angeles, une espèce de gala de soutien.
Oui, il y en a ici aussi.
Voilà, il y en a ici aussi, mais on n'a pas Stevie Wonder.
On a Gilbert Montagnier.
Au mieux, Gilbert Montagnier ou Enrico Macias. Et donc, Stevie Wonder devait y aller. Peut-être qu'il avait mal lu ce que c'était que
c'est
le concert.
Amusant.
Et donc Roger Waters l'a appelé et il l'a convaincu de ne pas y aller. Et on lui a dit, bah, tant qu'à faire, donc il vient de sortir une lettre, il a sorti une lettre en août, là, fin août, appelant tous ses copains rockers, musiciens, à faire comme lui et à ne pas aller en Israël, tant qu'Israël ne respectera pas le droit international.
Bah, grand respect pour Roger Waters. On continuera à parler du boycott culturel avec d'autres artistes et de la... Enfin voilà, je pense à... aux artistes maliens, par exemple, dont on parlera après. Mais je propose qu'on écoute... Alors, c'est trois musiciens palestiniens alors qui vivent en France. Je crois qu'il y a un clarinettiste, vous allez l'entendre, c'est vachement bien. Bien, c'est toujours nous, Sortir du colonialisme sur Radio Libertaire 89.4. Nous étions en train de deviser avec Imen et Dror de Roger Waters et du boycott culturel donc en Israël. On a expliqué effectivement en quoi faire pression par le biais des artistes sur le gouvernement, ça pouvait avoir un impact. La preuve, c'est qu'il y a quand même quelques succès. Et donc, je voulais parler d'un artiste dont le concert a été programmé, annulé, reprogrammé, annulé. Voilà, il s'agit donc de Salif Keïta. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous en parler ?
Oui, je veux bien en parler parce qu'on s'en est pas mal effectivement occupé cet été. Et là aussi, c'est un exemple assez frappant où c'est clair que la venue de Salif Keïta en Israël aurait été pour eux un moyen important de non seulement de montrer leur ouverture au monde, mais et ça, c'est quelque chose, c'est une réflexion interne qu'on s'est faite dans la campagne. On a publié une tribune là-dessus dans le Courrier de Genève. On a nos entrées dans certains journaux parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un exemple parmi d'autres. Ça fait quelques temps, ça fait 2-3 ans qu'Israël et quand je dis Israël, c'est vraiment l'État, hein, puisque c'est souvent des centres culturels financés par l'État, invitent des artistes maliens. Ils ne l'avaient jamais fait depuis 30 ans, et tout d'un coup, ils invitent plein d'artistes maliens. Là, on a eu de la chance, comme il y a eu un forum social qui s'est tenu au Sénégal, on a des collègues, des amis, des camarades au Sénégal, au Mali. Et, donc on a pu, par exemple, convaincre Oumou Sangaré, la grande chanteuse malienne de ne pas...
On passe souvent ici, on passe Yalla presque tout le temps ici.
Voilà, vous faites bien. Elle aussi, elle a annulé son spectacle en Israël, elle a été convaincue par nos arguments. Et quand on a appris que Salif Keïta y allait, ça nous a pas paru possible, et on lui a envoyé des courriers. Alors on lui a envoyé, c'est vrai, peut-être beaucoup de courriers, mais en aucun cas on l'a jamais menacé. Ça a été des courriers
pour... Pourquoi est-ce que tu précises?
Parce qu'on nous a... Le manager, après avoir annoncé que Salif Keïta a annulé le spectacle, donc c'est le manager, hein, Salif Keïta n'a jamais dit qu'on l'a menacé, le manager prétend qu'il a annulé à cause des menaces qu'aurait subies Salif Keïta. Or, nous, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on lui envoie un argumentaire, on lui explique pourquoi c'est pas possible qu'il y aille, pourquoi ça serait immoral, etc. Et on suppose, on espère qu'il a été convaincu par nos arguments. Je vois pas d'abord de quoi on pourrait le menacer, pauvre Salif, à part qu'on arrête d'acheter ses disques, mais d'abord c'est trop tard, on les a tous. Pour nous, c'était symptomatique, Salif Keïta, mais c'était aussi symptomatique de cette politique israélienne. Donc on n'est pas les premiers à appeler l'Israfrique, un peu au même titre que la France-Afrique.
Ouais, voilà, calqué sur la France-Afrique, dont on parle très très régulièrement ici.
C'est ça, j'imagine. Donc d'une politique israélienne à l'égard de l'Afrique, qui essaye de jouer sur nous, on est pour vous les Africains, sous-entendu noirs subsahéliens, et vous comme nous, vous n'aimez pas les Arabes, c'est-à-dire les blancs qui parlent arabe. Alors ils peuvent quand même pas rentrer dans une logique.
Mais ça aussi, c'est ambiance pinkwashing, quoi.
Complètement.
C'est blackwashing.
C'est on peut décliner ça à l'infini. Et donc c'est important pour nous. Une petite victoire peut-être tarir un peu cette politique qu'ils ont. Enfin, on espère. En plus, Salif Keïta, c'est pas n'importe qui.
Et puis c'est vrai qu'en Israël, la politique à l'égard des migrants subsahariens, par exemple, elle est pas forcément.
C'est ça le paradoxe, c'est qu'en même moment, ils ont construit un camp de réfugiés près d'Elat, là, dans le Negev, où ils peuvent accueillir plusieurs dizaines de milliers de migrants avant de les expulser. Un camp de rétention. Ils peuvent les expulser. Ils viennent de négocier avec un pays comme l'Ouganda, l'Ouganda sera d'accord pour accueillir des migrants qui sont même pas ougandais, hein, donc c'est même complètement illégal en droit international de déporter quelqu'un ailleurs que dans son pays d'origine. Et on soupçonne très fortement, que c'est en échange de contrats d'armement, de sécurité du président démocratiquement élu, comme chacun sait, etc.
Donc, c'est un lien très fort, effectivement. Là, du coup, Israël-Afrique, France-Afrique, complètement imbriqué.
Hein,
là, oui, c'est vraiment imbriqué. Oui.
Donc, c'est des choses intéressantes à suivre, auxquelles on ne pense pas forcément, parce que c'est un peu de la politique cachée entre les lignes, mais à force de mettre bout à bout des petits bouts d'informations, on s'aperçoit que tout ça, c'est très cohérent.
Tout ça, c'est, enfin, toutes les informations, les lettres, entre autres, que la campagne BDS envoie, on peut les retrouver sur votre site, donc
www.bdsfrance.org.
Voilà, exactement. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site, parce qu'il y a absolument tout. Et on peut enchaîner sur une autre forme que peut prendre le boycott, c'est le boycott économique, c'est-à-dire les industries, les entreprises israéliennes. Donc, il y a des entreprises israéliennes et il y a des entreprises françaises qui travaillent avec Israël. Donc, je peux citer Veolia, je peux citer...
Méadrine.
Oui, voilà. Il y a tout un... Donc, si tu peux... Enfin, Imen, si tu peux...
Oui, alors, on a quelques entreprises, donc, soit qui sont des entreprises israéliennes et donc qui sont malheureusement très implantées en France, ou soit des entreprises françaises qui participent à l'occupation, à la colonisation et à l'apartheid israélien. Alors, au niveau des cibles, on va dire, de la campagne BDS France, c'est vrai qu'on s'est beaucoup mobilisé et qu'on continuera à se mobiliser, notamment contre l'entreprise Méadrine. L'entreprise Méadrine, c'est la principale société israélienne agricole, donc qui nous vend dont les grandes surfaces aujourd'hui proposent des fruits et légumes étiquetés Israël. Donc nous, on mène une campagne en fait pour que notamment les grandes surfaces cessent de nous vendre ces produits donc de l'apartheid, ces produits qui sont cultivés sur une terre volée aux Palestiniens. Donc on se mobilise beaucoup par rapport à ça. Et donc ensuite, il y a des entreprises comme, il y a des sociétés comme Veolia. Veolia a construit un tramway reliant Jérusalem aux colonies. Donc c'est totalement illégal au regard du droit international. Ça a été condamné, c'est la cible d'une campagne internationale internationale, Veolia. Donc on va essayer aussi de se mobiliser. On s'est mobilisé par rapport à cette société. Donc il y a Orange, d'ailleurs,
pour... Juste pour rebondir sur ce que tu dis, les routes et Veolia, c'est exactement le principe même de la colonisation, qui était de construire des routes et des moyens de transmission depuis les matières premières jusqu'au port et après la métropole. Donc là, c'est un peu pareil. Il y a aussi une route qui va aussi...
C'est-à-dire que ça servait à...
C'est une stratégie coloniale pure, oui.
Voilà, exactement. Donc Veolia a fait le boulot, en gros, israélien, quoi. Il soutient la colonisation. Ils disent qu'ils veulent favoriser les peuples, etc. Or, c'est une belle preuve, du coup, de sale business, on va dire. Là, on mène campagne, notamment pour que les municipalités ne renouvellent pas leurs contrats. On va mener une campagne dans ce sens-là.
La campagne, c'est quoi? C'est des lettres? Comment ça se passe?
C'est des lettres, voilà. Il y a des contrats dans les municipalités avec Veolia. Et donc, nous, on va faire des lettres. On se mobilise par rapport aux élus pour qu'ils ne renouvellent pas ces contrats, notamment.
Avec espoir que ça fonctionne.
Oui.
Et donc tu citais, je pensais une autre entreprise qui est plus anecdotique, mais dont on entend beaucoup parler parce qu'ils offrent des cadeaux dans les jeux télé, c'est SodaStream, c'est aussi israélien, et avec une bonne presse, parce que le nom il est prononcé plusieurs fois par jour.
Oui. Donc SodaStream, c'est des gazéificateurs, et donc eux aussi ils ont leur siège dans les colonies. Donc ça fait partie aussi des cibles de la campagne, parce qu'effectivement on nous vend de l'eau gazeuse, on nous vend toutes ces belles choses, etc. Et derrière il y a toute la question du mensonge dans l'étiquetage qui existe, etc. Mais il y a toute une série de marques comme ça qui sont clairement investies, ou de sociétés qui sont clairement partie prenante dans la colonisation des territoires palestiniens.
Mais que le public ne le sait pas forcément.
Et le public ne le sait pas forcément. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on se mobilise contre ces sociétés.
Donner l'information, effectivement.
Donner l'information, oui. Et permettre que chacun puisse se mobiliser dans le cadre d'une campagne, donc comme celle de la campagne BDS France, pour que notamment les grandes surfaces ou ceux qui vendent ces produits prennent leurs responsabilités en cessant de vendre des produits issus de territoire palestinien occupé.
Et il y a donc un aspect particulier avec la campagne que vous menez sur Orange, donc.
Oui, alors en fait, peut-être qu'il y a une chose qu'on n'a pas précisé, c'est que donc le boycott, il y a une logique de pression sur l'État d'Israël, donc de boycott de tout produit, toute institution israélienne, mais il y a aussi une autre forme de boycott qui est incluse dans celle-là, qui est de boycotter spécifiquement ce qui vient des territoires occupés, parce que là, c'est même plus une question de pression, c'est juste illégal. Un territoire occupé militairement, comme les territoires occupés depuis 67, il y a des lois internationales qui régissent ces territoires-là, c'est juste un territoire que l'armée a le droit, malheureusement, l'armée a des droits, elle a le droit de gérer ce territoire. Elle a en aucun cas le droit de, enfin, ni l'armée, ni la puissance occupante, a le droit de faire de l'argent dessus. Si elle fait de l'argent par des produits qui viennent, donc s'il y a des colonies qui vendent des gazéificateurs ou des dattes, c'est des produits qui sont volés à la population occupante. Elle n'a pas le droit de voler, déjà, c'est limite si elle a le droit d'occuper ce territoire, en tout cas, elle n'a pas le droit d'en tirer profit.
Il y a une campagne sur les dattes aussi, à l'occasion du Ramadan, parce qu'on casse le Ramadan avec des dattes.
Des dattes de la vallée du Jourdain, ouais. Qui sont étiquetées Israël, voilà. Et donc il y a même des boîtes qui s'appellent Jordan Valley pour tromper vraiment les gens, ouais. Donc c'est toute une entreprise.
Et alors ça me permet de rebondir sur France Télécom, parce que France Télécom, comme toute entreprise multinationale, a un partenariat avec des entreprises israéliennes, mais ce qui a choqué particulièrement les camarades de Sud-PTT, c'est qu'elle est...
Sud-PTT, je rappelle que tu es donc syndiqué...
Je suis syndiqué à Sud-Recherche, voilà. Donc les camarades de Sud-PTT, on se croise régulièrement.
Ils nous ont prêté une camionnette pour emmener les tables.
Ah, ils sont gentils. Et quand ils ont appris donc que France Télécom a un partenariat particulier avec une boîte israélienne qui s'appelle Partner, mais qui en fait, en Israël, elle s'appelle Orange, c'est-à-dire que si on a un contrat chez Partner et qu'on allume son téléphone, il y a écrit Orange, enfin Orange, quoi. Donc Orange Israël, en quelque sorte. Orange Israël... vend des forfaits aux colons des territoires occupés, c'est-à-dire qu'elle installe pour ça des antennes sur les territoires occupés, donc encore une fois elle fait de l'argent avec des territoires volés, elle fait de l'argent là où elle n'a pas le droit d'en faire. Donc Orange France est complice de Orange Israël, qu'elle le veuille ou non, et donc est complice de ces crimes en droit international. C'est des crimes de colonisation, c'est un crime qui est reconnu depuis quelque temps, même par la Constitution française, le crime de colonisation, et donc Orange est est partenaire de ça. Donc ce qu'on demande, nous, Sud PTT ou la campagne BDS, c'est que Orange coupe son partenariat avec Partner. Après, on se battra contre Partner, mais au moins que nous, Français, on soit pas complices de cette action-là. En plus, ça va contre même la charte éthique d'Orange qui promet qu'elle fera jamais rien contre les droits de l'homme, etc.
Et c'est ce qu'on disait en ouverture d'émission, c'est que la politique israélienne, elle est très très souvent en violation du droit international et que les sanctions ne sont jamais appliquées. Donc finalement, le S de la campagne BDS, c'est ce qu'il y a de plus difficile à mettre en place, en fait.
En fait, s'il y avait le S, il n'y aurait pas besoin de B ni de D. Quoi.
Oui.
C'est parce qu'il n'y a pas de S qu'on est obligé de faire D et B. Quoi.
D'accord.
Je pense.
S, ça veut dire B comme boycott et S et D comme désinvestissement.
Oui, oui, oui. Si les États sanctionnaient l'État d'Israël il le mériterait, nous, citoyens, on n'aurait rien à faire. On laisserait faire notre État qu'on a merveilleusement élu. Mais comme les États sont incapables ou qu'ils ne veulent pas. Ou que les États ne veulent pas. Hein, ils prétendent qu'ils ne peuvent pas. Mais c'est qu'ils ne veulent pas. Ben, du coup, nous, citoyens, on devient les. On prend la place, quoi. Enfin, on essaye. Hein.
Bah là, je c'est très, très bien expliqué. Donc, je propose qu'on revienne sur l'état de la campagne BDS en France et comment ça se passe pour les militants, voilà, parce qu'il se passe des choses aussi pour les militants de la campagne BDS. Mais j'ai un petit morceau que j'ai envie d'écouter depuis le début de l'émission, donc Damien, s'il te plaît. C'est toujours nous, hein, finalement, sortir du colonialisme, Radio Liberta 89.4. Je rappelle le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous appeler, 01 43 71 89 40, 01 43 71 89 40. On attend vos appels avec une impatience non dissimulée. Voilà. Maintenant, un aspect un petit peu, alors pas polémique, mais cette campagne, elle n'a pas que des amis, elle n'a pas que des camarades, et on a tendance à lui reprocher plusieurs choses. Donc voilà, on va peut-être les lister dans l'ordre, les reproches. D'abord, on dit que ce boycott est contre-productif parce que la population palestinienne elle-même s'en retrouve touchée, donc victime potentiellement.
Oui, alors ça c'est un argument qu'on entend souvent, enfin on entend surtout par ceux qui sont hostiles à la campagne BDS. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est absolument faux, c'est-à-dire que les Palestiniens, en nous demandant de faire cette campagne, ils prennent un risque, ils ont pris le risque, effectivement, ils disent bon bah voilà, c'est vrai qu'on peut perdre des choses, mais le plus important c'est notre dignité, et notre dignité, on vous appelle à la défendre, et ils prennent le risque, évidemment, il peut y avoir des petites pertes économiques, etc., mais c'est eux qui nous le demandent et ils disent voilà, nous on sait que on peut perdre, mais le plus important pour nous c'est de maintenir notre dignité et pour notre liberté, et donc c'est pour ça qu'ils nous appellent à soutenir cette campagne.
Et là donc du coup tu rappelles effectivement que cette campagne c'est vraiment une histoire de solidarité internationale et que nous on est là en soutien de la population
exactement,
palestinienne
exactement.
Et que c'est leur stratégie.
C'est pas voilà. Une ou deux associations palestiniennes qui nous demandent ouais. de soutenir cette campagne, c'est ça qu'il faut vraiment rappeler, et c'est plus de 171 associations de la société civile palestinienne qui se sont concertées.
C'est énorme.
Voilà.
Des syndicats, des groupes de femmes, de jeunes.
Exactement. Qui se sont concertés et qui lancent un appel aux sociétés civiles du monde entier de les rejoindre dans cette campagne. Donc c'est vraiment effectivement une demande.
Et donc c'est pas à nous de dicter effectivement les stratégies.
Exactement, exactement. Ouais. Ça serait nous qui aurions lancé la campagne BDS. On aurait pu avoir cette problématique. Mais là, c'est vraiment une demande de la société civile palestinienne.
À laquelle on peut effectivement que s'y conformer. Non, mais c'est bien de le préciser parce que voilà, c'est des choses qu'on entend pour.
Exactement.
Et il y a même des voix, j'allais dire des voix connues, oui, des gars comme BHL, tout ça, qui tapent à bras raccourcis sur la campagne au nom de.
Ça, c'est plutôt bon signe en fait.
Oui.
En général, la règle, c'est quand BHL est pour, il faut être contre.
C'est
quand
ça.
BHL est contre, il faut être pour.
Si je vais méditer, parce que ça me paraît très intéressant ce que tu viens de dire. Et deuxième objection qu'on fait, voilà, Israël, c'est quand même une machine de guerre, quoi, une efficacité toute limitée de cette campagne face à la puissance d'Israël, qui est pas que Israël, qui est aussi qui est tout l'Occident derrière. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose cette campagne?
Oui, ça sert évidemment, ça prend du temps, etc. Mais c'est vrai que notamment, alors c'est pas uniquement, il y a le volet économique, mais sur le volet culturel, ce qu'on remet et notamment ce qui gêne énormément l'État d'Israël aujourd'hui, c'est qu'il compte énormément sur l'image, entre guillemets, l'image de prestige qu'il veut donner au niveau international. Et nous, on se mobilise aussi pour dire qu'Israël, non, c'est pas un État normal, qui doit être mis au ban des nations, que c'est un État qui veut se présenter comme démocratique, etc. Donc oui, ça sert énormément parce que on remet en question aussi l'image que veut donner l'État d'Israël après, notamment, ou pendant ces massacres ou ces exactions quotidiennes. Donc nous, on rappelle justement au monde, en France pour la campagne BDS France, mais partout dans le monde, ce que l'État d'Israël est réellement, c'est-à-dire un État d'apartheid.
Et d'une certaine façon, les deux arguments que tu viens d'opposer se contredisent,
oui.
Parce que dans la mesure où c'est surtout une attaque symbolique, je ne dis pas que si on avait les moyens de ruiner l'État d'Israël, on le ferait joyeusement, mais on en est absolument incapable. Donc c'est une attaque qui est symbolique, et donc parce qu'elle est symbolique, elle touche très peu les Palestiniens concrètement, elle touche même très peu d'Israéliens concrètement, elle touche l'image d'Israël principalement.
Oui, et c'est effectivement c'est cette image qu'il faut réussir à écorner. Et là, on vient d'avoir l'appel d'un auditeur qui pose une question, ma foi, judicieuse. Est-ce qu'il y a donc des groupes de femmes donc, qui s'engagent dans la lutte? Enfin, apparemment, la question elle portait plus sur la dimension féministe de cette campagne. Est-ce qu'on peut la mettre en avant?
Oui, alors dans la campagne lancée par les Palestiniens, il y a des mouvements de femmes, il y a des mouvements féministes qui font partie des 171 associations de la société civile palestinienne.
Oui, bien sûr, les groupes politiques palestiniens sont très organisés depuis longtemps et chaque groupe a son groupe femmes, son groupe jeunes, son groupe. Il y a des espèces de syndicats paysans qui sont après affiliés selon des sympathies politiques, plus ou moins communistes, plus ou moins je sais pas quoi, etc. Mais il y a aussi des groupes de femmes israéliennes. Il y a un groupe qui s'appelle Zohrot qui fait un travail exceptionnel. Leur but, c'est elles ont créé une association qui s'appelle Who Profits, sous-entendu Who Profits from the Occupation, qui profite de l'occupation. C'est un site web que je vous recommande d'aller regarder. Je crois que c'est WhoProfits.org, si je me souviens bien, qui recense entreprise par entreprise. Donc c'est un boulot fabuleux qu'elles font. Alors elles le font petit à petit, elles n'ont pas encore fait toutes les entreprises, mais entreprise par entreprise, lister chaque entreprise israélienne ou occidentale qui travaille en Israël, comment elle bénéficie d'investissements dans les colonies, etc. Donc oui, c'est un groupe, une activité qui est bien entendu
Mais c'est important, hommes et femmes, ça. Ouais. Et même sur le site de la campagne BDS France, je crois qu'il y a toute une rubrique qui est dédiée aussi aux entreprises et on peut effectivement se renseigner, oui, sur qui fait quoi et comment.
Exactement, comment on ça a essayé, oui, aussi de faire un travail d'information sur, oui, justement sur toutes ces entreprises qui sont impliquées dans les violations du droit international.
Oui, c'est un gros boulot que vous avez, oui, fait sur ça, oui, effectivement.
Donc il y a toute une série.
Enfin, je dis vous, mais je rappelle, parce que je suis aussi en mode autopropagande, que Sortir du colonialisme fait partie de la campagne BDS,
voilà,
aussi. Donc,
Oui, c'est une campagne qui regroupe une quarantaine d'organisations, d'associations, de syndicats.
On peut en citer quelques-unes, puisque c'est vrai, enfin, je redis ça en intro, mais est-ce qu'on peut en citer quelques-unes?
Oui, alors bah, y a Artisans du Monde, Génération Palestine, Solidaire, Attaque, le NPA, la CNT.
Il y a des organes politiques, syndicales.
Mmh. Voilà, tout à fait. Oui,
la CNT fait partie aussi de...
Mmh. D'accord. Ouais.
Bah, juste pour dire aussi, on parlait de groupes féministes ou de femmes ou sexistes ou antisexistes. En Palestine, il y a un groupe qui s'appelle Al-Kaous et un groupe qui s'appelle Queers for BDS, mm-hmm, donc un groupe queer pour la campagne BDS, qui est un groupe palestinien, qui essaie justement de se battre contre le pinkwashing.
C'est donc, ceux qui sont venus à Paris l'année dernière?
Oui,
c'est les mêmes.
Ouais.
Ils étaient au Vieux Saumur.
D'accord.
À Belleville.
Ouais, donc...
Non, mais oui, c'est important. Donc on voit, enfin, alors un mot très à la mode, mais on voit qu'il y a une vraie intersectionnalité des luttes, puisque en fait les unes et les autres se croisent et se multiplient les unes par les autres.
Oui, il y a aussi une intersectionnalité des anti-luttes, enfin, une intersectionnalité de, oui, féminisme, islamophobie qu'il faut qu'on déconstruise. Donc effectivement,
absolument,
nous aussi, on est obligé d'être sur tous les fronts.
Oui. Ouais. Mais c'est là, on voit qu'il y a des, enfin, tout ne se dissout pas dans tout, mais il y a des vraies passerelles. Et donc, je garde last but not least une objection qu'on fait systématiquement à toute tentative de remettre en question le régime sioniste. Ne seriez-vous pas un peu antisémite, camarade?
Bah alors, allez, là, la réponse, elle est très claire. C'est-à-dire, oui, que quand on a lancé la campagne BDS France, on a une charte, on a un appel, et cet appel et cette charte, ça résume un peu aussi qui on est. Et donc, nous, on se mobilise contre toute forme de racisme. La campagne BDS est par nature contre toute forme de racisme. Donc effectivement, on n'a rien à voir ni avec l'antisémitisme, ni avec l'islamophobie, ni avec toutes sortes de racisme. Et effectivement, malheureusement, ceux qui nous attaquent sur ce volet, et c'est souvent ceux qui rejettent le fait même qu'on puisse parler du boycott. Et nous, on se bat contre un État, on boycotte pas des individus, ça on le répète et on le répétera, c'est important. Donc le boycott est dirigé contre l'État d'Israël, et évidemment pas contre les individus.
Et une façon, effectivement, enfin, le fait que dès qu'on parle d'antisionisme, on soit taxé d'antisémitisme, ça sous-entend de façon extrêmement perverse que tout ce qui est juif est sioniste.
Ce qui est soi-même antisémite.
Mais voilà, donc c'est le serpent qui se mord la queue, enfin, il y a un truc dans ce goût-là quand même.
J'ai tendance à penser que même ceux qui nous accusent d'antisémitisme savent bien que c'est faux, et qu'ils savent qu'on est antisioniste, mais c'est une arme pour défendre Israël que d'accuser tout le monde d'antisémitisme. J'ai peur, je les préviens s'ils écoutent Radio Libertaire, ce que je leur souhaite.
Non,
je préviens que c'est quelque chose qui risque de se retourner contre eux à force d'accuser tout le monde d'antisémite. Le jour où ils s'attaquent vraiment à un antisémite, plus personne ne les écoutera.
C'est clair, c'est crier au loup, tout ça. Et c'est vrai que cette façon de faire, c'est un dévoiement de l'identité juive. Enfin, il y a vraiment quelque chose avec ça. Comme si, effectivement, l'attachement des Juifs à Israël était systématiquement, oui, indéfectible. Enfin, c'est Manuel Valls qui a un attachement indéfectible, mmh, à Israël.
Ouais, c'est,
bah, c'est un chantage insupportable. C'est-à-dire, ouais, qu'on ne peut plus... ça fait maintenant plusieurs années que c'est le cas. Et la campagne BDS, ça continue. Mais qu'on ne peut pas librement parler aujourd'hui on critiquer l'État d'Israël. On a systématiquement ce chantage à l'antisémitisme. Donc,
Et d'une certaine façon, ça nous rend un peu la vie difficile pour rallier des nouveaux militants. Parce qu'effectivement, les gens ont peur de se faire attaquer d'antisémitisme, même quand ils sont convaincus par nos arguments, ils savent que c'est contre l'État. Donc c'est à nous aussi de faire de la propagande au sens, oui, convaincre les gens que ce qu'on fait, ça n'a rien à voir
du
avec
militantisme,
ça. Du militantisme,
oui.
Et l'éducation populaire.
Éducation populaire, très juste, c'est important de le dire. Et c'est vrai que ce combat donc, que mène la campagne BDS, c'est un combat pour l'égalité des droits et contre le colonialisme, en fait, c'est ça. Donc ça n'a rien à voir avec... De toute façon, la situation en Israël et en Palestine, c'est pas un combat entre deux religions, c'est un combat entre militants anticoloniaux et puissance coloniale.
Bien sûr.
C'est juste ça, donc je pense que c'est important de
dire. D'ailleurs, il y a peut-être une chose qu'on n'a pas précisé non plus, c'est que souvent on nous oppose... des projets qu'on aurait qui seraient contestables pour la Palestine. Or, nous, la campagne BDS, on n'a aucune opinion, enfin individuellement on en a peut-être, mais la campagne BDS ne s'exprime absolument pas sur l'avenir de la Palestine. Est-ce qu'il faudra qu'il y ait un État, deux États, trois États, pas d'État du tout, pas de frontières, etc.
Pas d'État du tout, on est sur Radio Libertaire, donc ça nous parle
un
petit
pas
peu,
mal.
Oui,
mais voilà. c'est pas à nous de le dire, c'est encore une fois une lutte d'autodétermination du peuple palestinien. On les a pas laissés s'autodéterminer en 1947, on les laisse toujours pas s'autodéterminer aujourd'hui. C'est pas à nous de leur dire ce qu'ils doivent faire.
Très
nous, on est juste pour un peu renverser le rapport de force, les mettre dans une position où ils pourront faire valoir leurs droits.
Et
après, c'est à eux de décider.
C'est effectivement, voilà, c'est très juste ce que tu dis, parce qu'en tant qu'anticolonialiste, nous, on n'a pas effectivement à interférer. On doit soutenir les luttes des peuples à disposer d'eux-mêmes. Après, ce qu'ils mettent en place, ils le mettent en place. On peut se battre politiquement contre si c'est pas ce qu'on... Mais en tout cas, c'est respect.
Et vu comme ça, l'antisémitisme, on ne sait même pas quel est le rapport avec notre lutte, qui est une lutte pour l'autodétermination du peuple palestinien.
Mais c'est important de le dire. C'est important de le dire, parce que c'est souvent les accusations.
Tout à fait.
On continuera à discuter encore un petit peu, mais j'ai. Damien vient de sortir du studio, donc j'avais envie de passer encore un titre, donc peut-être que... Non, on va continuer, à parler. Non, si Damien est de retour, si tu veux nous passer un petit morceau.
Walou, 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 walou.
c'est encore à nous. On est toujours là, à sortir du colonialisme, Radio Libertaire. Je redis le numéro parce que pourquoi pas. Et puis les gens nous appellent, donc c'est sympa. 01 43 71 89 40. Voilà, on est encore ensemble pour une petite demi-heure. On attend que Roxana vienne pour sa chronique. Alors, soit des Amériques, soit du colonialisme environnemental. Je ne sais plus, elle me fatigue, je ne sais plus où on en est. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qu'on avait, sur lequel on n'a pas suffisamment insisté avec nos camarades, donc Dror et Imen de la campagne BDS France. On parlait donc du boycott culturel et donc des artistes qui doivent se produire théoriquement en Israël et donc auxquels on envoie des lettres à eux, à leur manager, pour leur dire n'y allez pas. Ça avait marché avec Vanessa Paradis, je crois. Ça n'a pas marché avec Julien Clerc, qu'il l'écoute, après tout, là-bas, qu'il l'écoute. Et donc, on parlait de Salif Keita, qui est un cas assez emblématique, parce que c'est une star internationale, parce que voilà, c'est un artiste malien, parce que ses propos contre les politiques d'immigration française sont quelque chose d'important. Et donc, il y a eu cette histoire où la campagne s'est mobilisée pour lui dire de ne pas aller à son concert. Et donc, tu nous as fait une sorte de révélation tout à l'heure, Imen.
Oui, parce qu'en fait, voilà, le concert où devait jouer Salif Keita a été présenté comme un festival pour la paix, pour la tolérance, etc. Et au fur et à mesure qu'on grattait et qu'on récupérait des informations, on s'est aperçu que celui qui était à l'origine de ce festival, c'était pas quelqu'un, un Israélien lambda, on va dire, quoi. C'était quelqu'un qui travaillait, qui était ambassadeur de, entre guillemets, de bonne volonté pour le gouvernement israélien.
Une sorte d'agent du régime.
Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et il y a une, comme l'a dit Dror tout à l'heure, il y a une offensive en direction des artistes africains, peut-être pour essayer justement de monter les Africains contre les Arabes, etc. Mais en tout cas, il y a une volonté du gouvernement israélien en direction notamment du Mali et des artistes maliens. Et donc le pompon, on va dire, c'était que le festival où devait jouer Salif Keita et où a, et là je tiens à le dire quand même, joué le groupe Amadou et Mariam en connaissance.
Ils ont joué.
Eux, ils ont joué, par exemple.
Oui, parce que c'est vrai. Enfin, on avait. C'est à ce moment-là que nous.
C'était
on est
les deux artistes, ouais. Voilà, qui étaient. Enfin, parmi les deux artistes que nous on a sollicité, en tout cas, qui étaient prévus là-bas, et ils ont joué donc en totale impunité.
Avaient-ils répondu aux demandes, enfin aux lettres qu'on leur
Absolument pas.
Envoyées,
justement, on attendait une réponse. On a contacté leur manager, etc. Oui. On les a informés, en tout cas, parce que ça nous paraissait important. On pourrait se dire qu'ils sont pas.
Parce qu'on présuppose la bonne foi, oui.
Voilà, qu'ils sont pas au courant. Voilà, mais nous, de toute façon, quand ils se mobilisent en Israël, on leur écrit. Quand ils jouent en Israël, on leur écrit. Mais là, la circonstance aggravante, c'était que c'était même pas en Israël. En plus, c'était dans les territoires palestiniens occupés, donc à Jérusalem-Est, qui est un territoire palestinien occupé.
Oui, il faut le dire, oui.
Voilà. Donc ça, c'était vraiment. Mais c'est vraiment ça l'offensive derrière. C'est-à-dire que c'est des Israël, en fait, parle d'événements pour la paix, pour la culture, pour la tolérance, etc. Or, là, on a eu plus d'une fois l'occasion de constater que ça avait rien à voir avec ça. Et
ça
c'était
fait
vraiment,
partie de. Oui, de
ça faisait vraiment ouais. partie de la propagande du régime israélien.
Et c'est quelque chose, enfin, au cas où certains de vos auditeurs pensent qu'on est complètement parano, c'est quelque chose qui est tout à fait officiel en Israël. C'est un programme qui s'appelle la Hasbara, H-A-S-B-A-R-A. Vous pouvez chercher ça sur Internet. C'est des programmes qui sont financés par l'université. Donc, c'est à pignon sur rue. Il y a des pages web de l'université de Haïfa, par exemple, qui sont consacrées à ça. C'est des programmes qui forment donc ces espèces d'ambassadeurs israéliens. Ils sont payés pour ça. Pour, par exemple, aller sur les forums de discussion et répondre à des gens qui défendraient par exemple le boycott et répondre et dire mais non le boycott c'est pas bien, alors ils vont ressortir les arguments parce que ça fait du mal aux Palestiniens, parce que ça sert à rien, et on s'aperçoit que c'est du copier-coller parce que ces gens-là ils sont formés à répondre 4 ou 5 phrases,
puis c'est toujours les éléments de langage aussi,
c'est les mêmes 4 ou 5 phrases qui vont répondre partout, et donc c'est des professionnels de la propagande d'État, et encore une fois je ne suis pas parano, c'est quelque chose qui est officiel là-bas, donc voilà, eux ils sont payés pour, nous on fait ça parce qu'on y croit et parce que bien
oui,
sûr
on est des militants, oui bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est important de le dire. Et donc, si on peut revenir aussi sur l'université, puisque voilà, il y a toujours. C'est effectivement la partie qui pose le plus problème. C'est parce que dès qu'on parle de boycott économique, à la limite, oui, c'est vrai que les gens. Voilà, pourquoi pas, et ça a marché pour l'Afrique du Sud, mais c'est effectivement s'en prendre à ce type d'institution. Et donc, il faut rappeler, on ne l'a pas dit tout à l'heure, que la plupart des profs de fac en Israël sont des réservistes de l'armée aussi.
Bien sûr, et puis l'université, c'est vraiment pas un endroit. C'est un endroit qui représente très bien Israël. La recherche israélienne, qui est très bien financée, et j'aimerais signaler qu'elle est très bien financée par l'Europe. Israël est, je crois, le sixième pays à recevoir le plus d'argent d'argent européen, alors que c'est même pas un pays européen, c'est-à-dire qu'aucun citoyen israélien ne paye d'impôts en Europe, mais les programmes de recherche européens financent les pays qui soumettent des projets et d'Europe, et quelques pays hors d'Europe sont admis là-dedans. Israël est très très bien financé, la recherche israélienne est très très bien financée par l'Europe, et beaucoup de ces projets impliquent des recherches militaires, des recherches en termes de sécurité, donc des choses qui vont en définitive faire beaucoup de mal à la population palestinienne. Le système éducatif israélien est pas très... peut correspondre très bien au mot apartheid. C'est beaucoup plus difficile pour un Palestinien d'Israël qu'un Israélien d'avoir accès à des études. D'ailleurs, ça se voit dans les chiffres. En définitive, il n'y a que 4% des étudiants en troisième cycle qui sont palestiniens, alors qu'il y a 20-25% de la population qui est palestinienne. Donc il y a une grosse discrimination.
Mais dès l'école primaire, peut-être même, non ?
Ben, oui, c'est ça, dès l'école primaire. Alors à l'école primaire, ils sont tous scolarisés, mais ils ont ça a été récemment démontré, des livres de moins bonne qualité, ils sont moins bien.
C'est des sous-citoyens.
C'est des sous-citoyens, ouais. Voilà, c'est exactement ça.
C'est assez terrifiant à dire.
Et l'université et les collègues israéliens ne sont pas du tout offusqués du traitement qu'on applique soit à leurs étudiants palestiniens, soit à leurs collègues. Être prof en Palestine, c'est pas facile non plus, etc. Donc c'est pas du tout un domaine en Israël où tout le monde est très bienveillant à l'égard des Palestiniens. C'est un peu comme tout le reste en plus, même en sciences humaines, mettons, on va dire, les sciences humaines, c'est pas ça. Les sciences humaines sont là aussi pour défendre le projet sioniste, confirmer que l'origine juive de l'État d'Israël, même il y avait
Continuer à faire résonner les mythes fondateurs du sionisme.
Exactement. Oui. Donc c'est l'université est une cible tout à fait légitime. D'ailleurs, si les professeurs étaient si conscients que ça du rôle en tant qu'intellectuel, ils seraient d'accord avec nous. Ou à la rigueur, peut-être ils nous opposeraient des arguments un peu intelligents et pas juste à dire non, le boycott c'est interdit.
Oui, c'est vrai que ça s'arrête là. Donc c'est là où on se rend compte que ce système d'apartheid, il est institutionnel, il est légal en Israël, et que c'est pas un abus de langage que de qualifier ce régime de régime ségrégationniste, et on veut pas dire apartheid, c'est un régime ségrégationniste.
Tout à fait, ouais. C'est le terme le meilleur, c'est pour ça que c'est celui qu'on utilise, parce que c'est vrai que on peut dire colonisation, occupation, on peut dire discrimination, mais là on arrive vraiment à deux populations qui habitent dans le même pays, l'une qui est discriminée, l'autre qui est favorisée. Alors on peut aussi préciser que celle qui est discriminée, c'est quand même la population autochtone, et celle qui domine, c'est la population qui est arrivée.
Mais c'est vrai
50.
Que c'est une forme de colonisation très particulière, la colonisation en Israël. Et c'est pour ça que les gens souvent n'acceptent pas ce terme de colonisation, parce que ça ressemble pas à une colonisation ou d'extermination comme il y a pu...
Ni d'extermination, et puis on dit toujours il n'y a pas de métropole.
Ouais.
Donc c'est la différence. Mais en Afrique du Sud non plus, il n'y a plus de métropole. Les Boers qui sont arrivés il y a très longtemps en Afrique du Sud, ils ne vont pas retourner en Hollande.
Ouais.
Donc d'une part, les Juifs sont arrivés il y a moins longtemps, il y a une grosse proportion de doubles nationaux en Israël, mais d'autre part... On parle bien de colonialisme et de logique coloniale, parce qu'après tout, j'ai entendu un Palestinien il n'y a pas longtemps dire à l'époque où il y avait des réfugiés de la Deuxième Guerre mondiale qui venaient en Israël, s'il y avait un État palestinien, ils auraient été bienvenus, ils auraient même peut-être obtenu la nationalité palestinienne, et ils seraient mieux traités aujourd'hui que les Palestiniens sont traités.
Mais
là à venir et à créer un État...
Non, mais que tu parles de Seconde Guerre mondiale, effectivement, on a l'impression que tout ce qui se passe en Israël, c'est vraiment, grévé par le poids de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et que si on ne peut pas parler d'antisionisme sans parler d'antimilitisme, c'est qu'effectivement, il y a cette pesanteur de la Shoah qui fait que, en Europe, cette culpabilité il y a des choses qui n'arrivent pas à sortir.
Avec ça.
Mais c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, peut-être maladroitement, quand je disais qu'on a refilé le problème aux Palestiniens, c'est qu'effectivement, l'Europe, elle a ce souci avec sa propre histoire, avec sa responsabilité, mais les Palestiniens n'ont effectivement rien à voir avec ça, mais on a vraiment l'impression que on a décalé géographiquement le problème sur place et qu'on leur pose... D'ailleurs, on disait bien, pour faire l'amalgame, que... Arafat était le nouvel Hitler. Enfin, tu vois, il y a toute une espèce de mythologie aussi qui se greffe autour de ça.
Oui, on l'a dit de Nasser, on le dit tous les jours, on l'a dit de Kadhafi. Donc bon, c'est un peu facile. Là aussi, il faut faire attention avec ce genre de... À force de traiter tout le monde d'Hitler,
on
va oublier qui c'est Hitler.
Ouais. Et Hitler, c'est aussi quelqu'un qui se vantait d'appliquer en Europe les méthodes que la France appliquait en Afrique, qu'ils cherchaient à coloniser l'Europe comme la France a colonisé l'Afrique. Et il y a un gars, je dis ça, bon, ça apparaît dans le rapport, mais c'est comme Enzo Traverso, qui parle de, effectivement, de cette généalogie européenne du nazisme, et qui explique qu'il y a vraiment un lien très très fort entre les doctrines racistes et colonialistes qui ont été véhiculées en France au 19e siècle, et l'application à la lettre qu'en a fait Hitler en Europe, quoi.
Mais c'est, oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui les Palestiniens qui payent le prix de cette histoire dont ils ne sont pas,
ils ne sont pas responsables.
Ouais. Et c'est, ça explique aussi le fait peut-être que bah, y a une totale impunité, notamment au niveau de l'Union européenne. Là, en juillet 2013, pour revenir un peu sur l'actualité, l'Union européenne a édicté des nouvelles lignes directrices visant à exclure les colonies, notamment israéliennes, de tout accord entre l'Union européenne et Israël. Ces lignes directrices aujourd'hui, on a Laurent Fabius qui est parti en Israël et qui a fait une déclaration en disant que ces lignes devaient être modifiées. Donc là, c'est un signe inquiétant parce que c'était un petit signal positif que l'Union européenne avait, avait adopté avec ces lignes directrices qui permettent au moins que les colonies ne fassent pas partie des accords commerciaux entre l'Union européenne et Israël. Et donc aujourd'hui, il y a des pétitions qui sont lancées pour qu'au moins l'Union européenne respecte ces lignes directrices, donc, qui, encore une fois, ne concernent même pas Israël, mais les territoires palestiniens occupés.
Tu parles de pétitions, on peut les trouver quelque part ?
Oui, on en a publié sur le site de la campagne BDS France.
Pour l'instant, on n'a pas encore de pétition citoyenne. On est en train de s'en occuper. Parce que pour l'instant, la première pétition, elle a été initiée par des professeurs, en fait par une association qui est membre de BDS France, qui s'appelle l'ORDIP, l'Association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine. Et eux ont lancé une pétition, mais qui n'est signée que par des professeurs, chercheurs, universitaires.
Et il y a aussi 40 organisations de la société civile palestinienne qui viennent d'interpréter aussi l'Union européenne. Donc c'est signé par la société civile palestinienne qui demande à ce que au moins s'il n'y a pas de sanctions contre Israël, au moins on fasse appliquer ces lignes directrices.
Et peut-être encore plus étonnant, donc les professeurs, il y en a 800 qui l'ont signé, donc il y a 40 organisations palestiniennes, et peut-être plus étonnant, il y a 600 intellectuels israéliens qui ont aussi publié un texte disant, nous on soutient cette politique de l'Europe, parce que cette politique, à la rigueur, ne coupe pas toute collaboration entre l'Europe et Israël, elle coupe uniquement les collaborations avec les territoires occupés, et il y a beaucoup d'Israéliens qui sont ouverts à ce qu'on pourrait appeler un compromis, quand même.
C'est une étape, ça serait une étape.
Et il y a 51 parlementaires européens qui viennent aussi d'envoyer une lettre à Catherine Ashton pour lui.
Catherine Ashton, qui est donc
qui est un peu l'équivalent de la ministre des Affaires étrangères européenne. Jour où il y aura ça.
Je propose qu'on écoute un autre morceau, parce que je ne vous le cache pas, on attend toujours Roxana pour sa chronique des Amériques, mais c'est pas grave, nous on est bien, on continue à parler, voilà, donc un autre morceau, et je crois que c'est un chant palestinien, enfin je crois.
بلاد وانا لو مهما شفت بلاد لو بينك وبين بلاد
Eh bien voilà, c'est tout. Parce qu'on vient de tester une nouvelle stratégie pour que je ne me sente pas débordée quand je reprends l'antenne. Eh bien, ça marche. On est toujours sur Radio Libertaire avec les camarades de la campagne BDS, Dror et Imen. Et donc, je voulais qu'on rappelle, puisqu'on ne l'a pas fait de façon très précise, quelles étaient les trois grandes revendications de la campagne BDS.
Oui, alors effectivement, dans le rappel de 2005, la société civile palestinienne, elle insiste sur trois revendications. Donc la première, c'est mettre fin à l'occupation et à la colonisation de toutes les terres arabes en démantelant le mur de l'apartheid. La deuxième, c'est reconnaître...
Juste, pendant que tu... Excuse-moi, mais donc il faut rappeler qu'il y a trois situations précises. Il y a Gaza, il y a la Cisjordanie et il y a Jérusalem-Est. C'est trois situations
voilà.
précises.
Et le Golan aussi.
Et le Golan aussi, oui, c'est vrai.
Oui, c'est ça. La deuxième, c'est reconnaître les droits fondamentaux donc des citoyens arabo-palestiniens d'Israël à une égalité absolue, donc la fin de l'apartheid.
Égalité des droits, oui.
Voilà. Et la troisième, c'est respecter, favoriser le droit au retour des réfugiés. Donc le droit au retour des réfugiés, c'est une résolution notamment des Nations Unies. C'est un droit inaliénable du peuple palestinien. Donc le droit,
droit au retour
voilà, des réfugiés.
Résolution 194, je crois.
Exactement, ouais. C'est ça. Et donc cet appel donc, de 2005, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a été lancé un an après l'anniversaire, c'est pour marquer l'anniversaire de la Cour internationale de justice qui s'est prononcée en 2004 appelant à démanteler le mur de l'apartheid. Donc cet appel, il a été lancé un an après cette décision de la Cour internationale de justice demandant le démantèlement de ce mur, quoi.
Et donc c'est important effectivement de l'avoir rappelé et donc on se rend compte là, enfin pour résumer ou synthétiser, en fait la campagne BDS c'est une campagne qui lutte aussi contre le nettoyage ethnique en Israël.
Oui, c'est ça. Ouais. Ça lutte contre l'impunité, ça lutte contre tout un tas de choses, ce qui se passe à Gaza, ce qui peut se passer pour les Arabes israéliens ouais. dans les territoires de 48, ce qui peut se passer pour les Palestiniens en Cisjordanie.
Oui, parce qu'il y a des réalités assez différentes selon les territoires. Mais toutes, elles participent de la même volonté
voilà.
israélienne d'éradiquer le peuple palestinien. Oui, donc c'est, on en avait parlé avec des jeunes étudiants de la GUPS, justement, de ce qui se passait dans les différents territoires. Et c'est vrai que c'est important parce que c'est des réalités qu'on... Enfin, on pense beaucoup à Gaza quand on parle de la Palestine ici, mais voilà, Jérusalem-Est, ça compte aussi. Et il se oui. passe au niveau de
des destructions de maisons.
Voilà, il se passe des choses assez terrifiantes dont on... auquel on est tellement habitué que voilà, qu'on n'y pense plus.
Et ce qui se passe en Cisjordanie rappelle aussi l'apartheid, puisque une façon de diviser les Palestiniens, diviser les luttes, de rendre plus difficiles les mobilisations, ne serait-ce que les manifestations, ou ne serait-ce que d'empêcher les étudiants d'aller à la fac, par exemple, bah c'est le découpage en bantoustan, comme les Sud-Africains ont si bien su le faire. Donc la Cisjordanie est parcourue de checkpoints, de routes interdites réservées aux colons. Ça devient un enfer pour aller d'un endroit à un autre, et notamment la grande fac de Birzeit, qui était vraiment une grande fac qui est pas très loin de Jérusalem et de Ramallah. Maintenant, si on veut y aller depuis le sud, depuis Hébron, c'est impossible. Donc les étudiants ou les étudiants potentiels de Hébron, ils renoncent à une carrière universitaire parce qu'ils peuvent plus y aller. Donc l'apartheid, ça a des conséquences concrètes sur la vie quotidienne
Vrai que c'est casser les solidarités et empêcher les jonctions entre les différentes composantes du mouvement social de se faire. Et on en parlait tout à l'heure, je sais pas si c'est judicieux ce que je dis ou pas, mais quand il y a le mouvement des indignés à Tel Aviv, c'est vrai qu'ils étaient à fond et qu'on avait l'impression qu'il allait se passer quelque chose, et il a suffi que le gouvernement dise que des nouveaux logements allaient être construits, puisque c'était un truc sur le mal logement au départ, que des nouveaux logements allaient être construits, et le mouvement s'est dégonflé de lui-même, même si ces logements allaient être construits dans les territoires.
Je sais que nos camarades israéliens avaient aussi cru un petit peu à ce mouvement, et on créait, il y avait une tente parmi les tentes des indignés, il y avait une tente qui parlait des Palestiniens, mais c'était une tente, et c'est celle que personne n'a entendue, ou presque personne. Donc il y a des gens qui... Israël subit aussi une crise, et dans ce cas-là, les Palestiniens, c'est la dernière roue du carrosse.
Et c'est vrai que casser le mouvement social, c'est une des armes du capitalisme. Enfin, c'est comme ça que ça marche, quoi. Ils savent très bien faire, empêcher effectivement les gens qui ont les mêmes intérêts convergents de se regrouper.
Bien sûr, après on rentre dans des débats un peu compliqués, mais c'est vrai qu'en Israël, on sait qu'il y a aussi des classes, bien entendu, très souvent les juifs d'origine maghrébine sont moins bien traités, moins éduqués que les ashkénazes d'origine d'Europe de l'Est, et ils pourraient y avoir une alliance naturelle des juifs arabes et des palestiniens arabes, et elle se fait pas parce que l'État fait tout pour empêcher qu'elle se fasse. Quand il y a des embryons d'alliance, elles sont réprimées de façon beaucoup plus féroce que les autres, parce qu'on sait que ça, c'est le plus gros danger. L'unité autour...
Dès que la jonction est faite, ça y est, on passe à un autre niveau. Et je voulais saluer, puisqu'on est sur Radio Libertaire, et faire une dédicace particulière à nos camarades d'Anarchistes contre le mur, qui sont effectivement pas nombreux, mais qui sont hyper courageux et très actifs, et qui sont en but à une hostilité, y compris à l'intérieur même d'Israël.
Et qui sont par ailleurs très actifs au sein de la campagne BDS, notamment à travers le groupe Boycott From Within. Il y a beaucoup de gens...
Boycott de l'intérieur, parce que je suis trop bilingue.
C'est un groupe, effectivement, il est minoritaire, mais il est très actif dans la campagne de boycott. Et nous, on travaille aussi en lien avec eux, et donc ils font partie...
Et avec elles, puisque l'auditeur tout à l'heure appelait en demandant la question des femmes. Il y a beaucoup de femmes dans ce mouvement
d'Anarchistes contre le mur.
Et donc c'est important de le dire, et c'est des gens effectivement qui sont criminalisés, qui sont jetés en prison parce que ils refusent la politique israélienne telle qu'elle est, ils le disent très courageusement. Donc voilà, et je crois que c'était ils avaient un lien aussi avec le film 5 caméras brisées.
Ce mouvement de solidarité jeune en Israël, parce qu'il y a des vieux mouvements de solidarité, mais il était temps qu'il y ait un nouveau souffle et qu'il y ait des jeunes. Ouais. Il a ce courage, parce qu'il faut bien le dire que là-bas c'est un peu du courage, de passer de l'autre côté du mur et d'aller en solidarité avec les Palestiniens et d'aller avec eux dans les luttes. Et celle qui est la plus emblématique, en tout cas médiatiquement, c'est la lutte de Bilin, qui a lieu tous les vendredis.
Qui était le sujet du film, donc 5 caméras.
C'est ça. Voilà. Et donc les anarchistes contre le mur rejoignent les Palestiniens à Bilin tous les vendredis pour manifester contre l'armée. Il faut dire, si on veut rentrer dans le détail, c'est une petite portion de mur qui bouffe la moitié du village de Bilin. Le village a porté plainte contre la Cour suprême. Et ils ont eu gain de cause. Ce mur, en plus d'être scandaleux, il est particulièrement illégal là, parce qu'il ne respecte pas je ne sais plus quelle loi. N'empêche qu'il ne le démantèle pas. Ouais. Et donc, il y a des manifestations pacifistes là aussi. C'est pour ça qu'on a, une communion de moyens de mettre en œuvre la lutte. C'est que c'est une lutte non violente à Bilin, comme la campagne BDS, en espérant que ce sera le meilleur moyen de faire plier.
Oui, ce mur qui est présenté comme un mur d'annexion, rien que dans le village de Bilin, il a confisqué à peu près 60% des terres agricoles des Palestiniens du village. Donc ça montre bien
la monstruosité du truc.
Voilà, le fait que c'est pas du tout un mur entre guillemets sécuritaire ni quoi que ce soit. C'est vraiment un mur d'apartheid et de colonisation.
Et on parle de mur, donc juste parce que on arrive au terme de l'émission. La thématique du mur, elle est forte, et c'est vrai qu'on parlait de Roger Waters tout à l'heure. C'est Another Brick in the Wall, et c'est vrai que, tu nous expliquais que dans son son concert qui aura lieu bientôt, il a toute une symbolique autour du mur aussi et qu'il en parle et que...
On rappelle que les Israéliens appellent ça la clôture, ils n'appellent pas ça le mur.
Mais c'est alors très champêtre.
C'est la clôture de séparation.
Ça fait 10 mètres de haut et que c'est sécurisé par deux tranchées de part et d'autre, des barbelés, des trucs.
C'est de la clôture de compète, mais ça reste la clôture. Oui. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission avec nous. Alors, ça tombe bien, parce que ce soir, donc à 20h, à Montreuil, dans un lieu très sympa qui s'appelle Casa Poblano, Pierre Stamboul, qu'on a déjà reçu ici pour son bouquin « Du refus de complicité à l'engagement », qui est un livre donc, qui parle de son parcours en tant que militant de l'UJFP, l'Union juive pour la Palestine. Donc, il présente son bouquin et il explique en quoi le sionisme, c'est tout sauf un bonheur pour les juifs, en quoi le sionisme, en fait, nuit au judaïsme en Europe. C'est donc 15 rue Lavoisier, au métro Robespierre, Casa Poblano, et c'est, voilà, Pierre Stamboul, c'est toujours un bonheur de l'écouter. Et je pense que dans la campagne BDS, on le connaît bien aussi.
Tout à fait.
Et donc voilà, si les gens veulent prolonger tout ce qu'ils ont entendu là, s'ils veulent prolonger et continuer à discuter, rendez-vous à 20h, 15 rue Lavoisier, métro Robespierre, c'est à 150 mètres. Il faut prendre la sortie 1, je crois, quand on sort du métro Robespierre. Et Casa Poblano, c'est un endroit bien, bien sympa, avec du commerce équitable, avec des bouquins. Enfin, c'est vraiment c'est un lieu culturel, éthique et anticolonial, donc c'est bien d'y aller. Dans 15 jours, on se retrouve pour une émission qui va parler du... Donc, on sera le 4 octobre et on parlera donc des événements du 17 octobre 61. Et j'annonce dès maintenant que le 17 octobre, après le rassemblement, on organise une grande soirée autour du thème du 17 octobre. On recevra... Oui, vas-y, Imen.
Oui, je voulais juste rappeler le site de la campagne Bien BDS sûr. Pour ceux qui veulent en savoir plus et même participer avec nous. Donc, c'est www.bdsfrancetoutattaché.org.
Voilà, donc rendez-vous sur le site et un peu partout. Et pour finir, je crois qu'on a encore un... Oui, je crois qu'on a un morceau qui s'appelle Palestine Shout Shout.
Large giraffe, shout, shout. You large giraffe coming up, Lord. You large giraffe, shout, shout. You large giraffe coming up, Lord. Elijah, Elijah, Elijah. Shout, shout, shout. You like to rock, come in. You like to rock, shout, shout, shout. You like to rock, come in. Oh, Lord, have mercy. Help me, Lord, have mercy. Well, yes, oh, Lord, oh, Lord, hallelujah. Lord, have mercy. You know he's a good thing, stop him. John talked about it, walked on the seven seas. Some fell around the Sharon, others say the Prince of Peace. I can tell everybody, been a rock and a shout. Hallelujah, he liked to rock, shout, shout, shout. He liked to come, he liked to rock, shout, shout, shout. He liked to rock. I'm a and see. Elijah rock, shout, shout, shout.